L'heure du crime, émission spéciale.
Les affaires qui vous ont le plus marqué.
Jean-Alphonse Richard.
Bonjour et bienvenue dans l'heure du crime. Aujourd'hui, c'est vous qui faites cette émission et c'est vous qui nous appelez au 3210 pour discuter évidemment de crimes qui vous ont marqué, d'affaires qui vous passionnent. Il y en a beaucoup en ce moment, notamment des cold cases. On en parle beaucoup dans l'heure du crime. On pense aussi beaucoup et de plus en plus aux familles qui souffrent dans ces cas-là. Vous savez bien qu'elles ont la parole dans l'heure du crime, justement, si vous faites partie de ces familles qui ont été touchées par un fait divers, par un crime qui a marqué votre histoire, eh bien n'hésitez pas non plus à nous appeler. On va donc balayer quelques histoires aujourd'hui avec vous, car c'est vous, encore une fois, et je le répète, vous avez la parole, c'est votre émission, et je suis très heureux de la partager en votre compagnie. On va prendre tout de suite un premier auditeur, c'est Jacques. Bonjour Jacques.
Bonjour, très heureux de vous parler. Je suis un passionné de votre émission.
Écoutez, c'est très gentil et je vous en remercie. Je suis très heureux de vous avoir au téléphone, Jacques. Alors Jacques, sur ma petite fiche, on me dit que vous voulez nous parler d'Émile, parce que c'est effectivement l'affaire, ouais. Une des affaires du moment, j'ai envie de dire.
Le petit Émile, moi ça m'a boue. J'ai 69 ans, j'ai une fille, j'ai pas de petits enfants encore, mais ça m'a bouleversé. Ce fait divers, parce que je trouve que sur un périmètre aussi petit, avec aussi peu de gens, ne pas arriver à trouver réellement ce qui s'est passé. Et dernièrement, on a trouvé des ossements,
oui, tout à fait.
Du petit Émile. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que spécialiste, est-ce qu'il est possible que ces ossements n'aient pas été vus au départ, malgré le nombre vraiment très très important de personnes qui ont ratissé la zone.
Bien sûr.
Est-ce que vous pensez que ces ossements aient pu être rapportés après le ratissage?
Alors il y a deux questions dans une seule, mon cher Jacques. La première, c'est que est-ce qu'on a pu passer à côté de ces ossements? Moi, je réponds oui. Parce que je connais bien ce terrain là-bas, etc. Je connais bien cette région et je sais que cet environnement, il est très compliqué d'accès. Donc, on a dit qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui ont participé aux recherches, plus d'une centaine. Il y a eu une équipe de la Légion qui a sondé certains endroits. Il y a eu ces fameux chiens aussi. Il faut dire que les chiens, effectivement, ils ne ratent pas ce genre d'indices, si vous voulez, dans la nature. Sauf que les chiens, au bout de une heure et demie, ils sont très fatigués, on ne peut pas les faire travailler comme ça en permanence. Et puis, est-ce qu'on est vraiment passé à côté de cette zone? On peut en douter, parce que le crâne, il a été retrouvé près d'un petit chemin. Ensuite, la deuxième question, le deuxième volet de votre question, c'est est-ce qu'on a pu poser ces ossements plus tard? Personnellement, moi, j'en doute beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ce chemin, il faut passer devant des maisons au début, il faut y aller uniquement à pied, on ne peut pas transporter par exemple le corps avec un véhicule, parce que c'est pas possible, il n'y a pas de route à cet endroit-là, donc ça me paraît pas très vraisemblable. Mais ensuite, que évidemment des animaux aient pu transporter ces os et les disséminer, ça c'est tout à fait probable. Effectivement, on voit beaucoup ce genre de choses lors de la découverte de cadavres. Hein. La petite Maëlys, c'était pareil. La petite Maëlys, on n'a trouvé que le petit crâne de la petite fille avec un morceau de sa robe blanche. Le caporal Arthur Noyer, la même chose, le crâne. Donc vous voyez, voilà pour ma réponse, Jacques, sur cette affaire qui n'est pas terminée. Vous avez raison de lire, elle n'est pas terminée, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire.
Et est-ce que vous avez, vous, en tant que professionnel, toujours, une intime conviction? Parce que moi, j'en ai une d'intime conviction, mais...
Écoutez, moi, je n'ai plus d'intime conviction dans cette affaire. Moi, depuis le début, je pense que la famille n'est pas impliquée. Je l'avais dit, etc. Donc, moi, je suis pas du tout sur la piste de la famille. J'ai pensé à un moment donné que ça pouvait être un accident de voiture, que le petit garçon aurait pu être renversé et transporté dans une voiture par quelqu'un qui aurait pris peur. Là, ça cadre pas, parce qu'effectivement, le corps, il aurait été déposé vraiment à proximité de l'accident et de la fontaine, et encore une fois, où il y a des maisons, où il y a quelques personnes. Alors, il n'y a pas grand monde dans ce village, hein, c'est un hameau, on est d'accord, mais voilà pour ce que moi, je pense. Ensuite,
j'ai mon intime conviction, alors, ça n'engage que moi, c'est tout basiquement ou bêtement un accident, et ce petit Émile est parti dans un coin, et certainement tombé, s'est peut-être blessé, je ne sais pas. Et voilà, et puis personne l'a vu, l'a trouvé. Puis je pense, moi, c'est mon intime conviction. Je vois pas de complot, je vois pas de choses comme ça. Parce que l'endroit est tellement petit, tellement. Vous qui connaissez bien l'endroit, c'est quand même le trou du cul du monde. Hein,
C'est très isolé, voilà. Effectivement. C'est très difficile d'accès. C'est voilà.
Il y a pas des centaines il y a pas des centaines de passages par jour. Je veux
tout
dire.
Tout à fait.
Un étranger qui passe dans un coin, il va être vite remarqué. Hein,
c'est pas du tout simple. Jacques, je vous remercie beaucoup pour votre appel.
Hein. Eh bien, merci. Et puis continuez à nous passionner avec vos histoires.
Formidable. Restez à l'écoute. Bonjour, Grégory.
Bonjour Jean-Alphonse, oui. Richard, très heureux de vous parler pour la première fois.
Moi aussi, je suis très fier de vous avoir au téléphone aujourd'hui. Vous faites partie de nos auditeurs et c'est une bonne chose. Vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Alors vous, une question sur Sabine Dumont. Alors Sabine Dumont, je le dis en deux mots, c'est une petite fille qui avait disparu. Elle avait 9 ans. Elle a disparu en juin 87. Son corps avait été retrouvé au bord d'une route, pas loin de chez elle, en Essonne, avec des parties du corps qui avaient été brûlées. Elle a été violée, elle a été étranglée. Et c'est d'ailleurs une époque où 4 petites filles ont également disparu dans les mêmes conditions. C'est un cold case. Quelle est votre question là-dessus, Grégory ?
Alors moi, à l'origine, je voulais vous parler d'une autre affaire. Le docteur Patrick Beau qui a été assassiné à Nemours en Seine-et-Marne. Un neurologue, ça aussi horrible affaire, non élucidé. Mais c'est vrai que la petite Sabine Dumont, qui me touche aussi beaucoup, parce que moi j'ai un excellent ami, qui a été à l'école avec elle, il avait 9 ans en 87, il était dans la même classe qu'elle, il l'a connue, et donc c'était à Bièvre, vous l'avez dit, dans l'Essonne. Alors moi, la question, c'est que je ne comprends pas que, par exemple, l'affaire du petit Grégory, même si on n'a pas trouvé encore l'assassin, mais enfin, il y a quand même des pistes, il y a quand même des soupçons, que l'affaire Sabine Dumont, comment que ça se fait qu'au bout de tant d'années, il n'y a aucun soupçon, aucun... Alors, je sais qu'il y a une enquête, bien sûr, très sérieuse, mais pourquoi ? Pourquoi ça ne tourne pas ? Cette affaire n'est pas bouclée ?
Parce que... Non, simplement parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'indices dans le dossier aujourd'hui. Il n'y a pas eu de témoignage sur cette disparition. Effectivement, les enquêteurs à l'époque, ils ont fait le tour, notamment de la famille, notamment des proches, etc. Une enquête très classique. Et c'est très compliqué. On n'a pas la clé là-dessus. On sait que... on n'a pas la clé, mais le dossier a été confié au Paul Colcase à Nanterre. C'était en 2023. Et on peut s'interroger sur la piste d'un tueur en série. Vous savez que pendant très longtemps, on était en 87, pour la petite Sabine, on n'avait pas ce réflexe de penser à des meurtres en série, forcément. Là, il y a 4 petites filles qui disparaissent dans les mêmes conditions. Virginie, Emma, Perrine, Sabine. Ça fait beaucoup de monde. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le Paul Colcase est en train de reprendre ce dossier et de travailler sur des pistes oubliées. Donc, on aura peut-être la vérité, mais on est sans doute passé à l'époque à côté de cette possibilité d'un meurtrier unique.
Ouais, j'espère vraiment qu'on va retrouver. Enfin, de toute façon, j'espère qu'on va retrouver tous les assassins, mais c'est vrai que cette affaire me touche un peu plus parce que je vous dis, j'ai un ami, un excellent ami qui était à l'école avec.
Tout à fait, mais effectivement, ces affaires nous touchent aussi dans l'heure du crime et on espère toujours. On est là pour ça, l'heure du crime aussi, pour vous aider. Dès lors qu'il y a des témoignages qui peuvent se dessiner, on est là aussi pour les recueillir. Voilà, merci à vous et on se retrouve tout de suite dans l'heure du crime avec les auditeurs.
L'heure du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs.
Et on se retrouve dans cette heure du crime spéciale auditeur, parce que c'est vous aujourd'hui qui faites cette émission, c'est vous qui nous appelez, je réponds à vos questions, on discute évidemment de faits divers et d'affaires judiciaires qui vous passionnent ou qui sont en cours. On parlait à l'instant avec Grégory, notre ami auditeur, des cold cases en France. Bien sûr, ces 20 dernières années, il y a environ 5000 cold cases, il y a 30% d'affaires qui ne sont pas résolues chaque année. Vous imaginez l'ampleur de la tâche des enquêteurs. Et puis, c'est un chiffre terrifiant. 5000 cold cases en France ces 20 dernières années. Donc, effectivement, c'est des affaires dont on parle plus souvent, très souvent d'ailleurs, dans l'heure du crime, avec notamment aussi des personnes qui disparaissent. Il y en a 40 000 en France. Voilà, j'arrête avec les chiffres, mais ces chiffres, ils sont importants et ils sont très parlants. Je voudrais qu'on ait... je crois qu'on a en ligne Jeanne. Bonjour, Jeanne.
Bonjour Jean-Alphonse.
Ah, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime.
C'est toujours un plaisir.
Ah ben oui, mais c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors évidemment, vous, je crois que vous intéressez à l'affaire Émile Louis, c'est ça,
hein,
le fameux chauffeur de car. Alors très brièvement, Émile Louis, sinistre personnage, qui est décédé aujourd'hui d'ailleurs, entre 75 et 79, il y a plusieurs filles, des jeunes filles de la DAS qui disparaissent dans la région d'Auxerre. Il faut bien le dire qu'à l'époque, on se moque un peu de ces disparitions, elles n'ont presque pas d'importance. Et puis, des années plus tard, décembre 2000, c'est dire si la justice a traîné dans ce dossier, et pour cause, parce qu'on n'a pas vraiment cherché les auteurs de ces disparitions, Émile Louis, le chauffeur de car, va avouer l'assassinat de 7 jeunes filles handicapées. Il se rétractera, mais enfin, c'est bien lui qui a fait disparaître ces filles, il a abusé d'elles et il les a fait disparaître. Pourquoi vous intéressez à cette affaire, Jeanne?
Ben écoutez, dans la petite ville où j'habite, il y a une maman d'une victime qui habite chez nous, Chantal.
Mmh.
La petite s'appelait Chantal Gras et la maman, c'est Gisèle.
Mmh.
Donc c'est vrai qu'on prend énormément soin d'elle à Vito où on habite, parce qu'on sait le calvaire qu'elle a pu vivre.
Mmh.
Et puis, on sait qu'Émile Louis a tué 7 personnes, 7 jeunes filles, et qu'on n'a retrouvé que 2 corps. Donc je me dis que certaines familles n'ont pas pu faire le deuil.
Ouais, mais vous touchez vraiment du doigt le problème avec cette histoire. Encore une fois, où la justice a été erratique, c'est le moins qu'on puisse dire, et encore je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment cherché pourquoi ces jeunes filles disparaissaient. Alors c'est le cas Chantal Gras, mais je vais donner les autres noms des autres victimes, parce qu'elles le méritent bien. Françoise Lemoine, Christine Marlot, Jacqueline Weiss, Madeleine Dejus, Bernadette Lemoine, Martine Renaud, et puis Sylviane Lesage, je la cite quand même si notre personnage, Émile Louis, a eu un non-lieu dans cette affaire. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la maman, de les parents, la famille de Chantal Gras? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui sur cette affaire?
Alors, notre chef, Gisèle, elle en parle moins maintenant. Je pense qu'elle a accepté le fait qu'Émile Louis ait été condamné. Elle en parle moins. Peut-être qu'elle devient apaisée. Mais en vieillissant, peut-être qu'elle garde tout ça pour elle et qu'elle n'a plus forcément envie de nous embêter avec ça.
Elle est toujours peut-être remontée contre cette justice qui n'a rien fait et qui a souvent laissé tomber ces familles. Parce que c'était des jeunes femmes, des jeunes filles qui venaient de milieux sociaux, comme on dit, défavorisés. Ce sont des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour se défendre, qui ne connaissaient rien aussi à la justice, et ça c'est important. Et finalement, elles ont été laissées sur le côté de la route, c'est ça, Jeanne, hein?
Oui, c'est ça. Souvent, elle a dit qu'elle s'était retrouvée seule avec sa sœur pour affronter ce drame.
Mmh.
Et souvent, il lui arrive d'être encore un petit peu en colère, je pense, contre cette justice qui ne lui a pas donné de réponse, en fait.
Mais vous avez, je suis très touché par votre appel, Jeanne, parce que effectivement cette affaire, on l'a traitée dans l'heure du crime, et elle est à la fois terrifiante mais il y a beaucoup d'humanité dans cette affaire, parce qu'il y a des personnes, des associations qui se sont battues pour que effectivement ces affaires soient révélées à la justice. Ça a été un très long combat. Je pense au président de l'association des disparus de Lyon. Il faut le saluer aujourd'hui, parce qu'effectivement ce sont des personnes, ça, qui vraiment ont fait beaucoup de travail. Et c'est souvent grâce aux familles, d'ailleurs, et grâce à ces bénévoles qui cherchent sans arrêt que les affaires sont révélées. Et ça, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup, Jeanne, pour votre témoignage.
Moi.
Très touchant. Merci, restez avec nous dans l'heure du crime. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, Jeanne. On va parler peut-être un petit peu de Jonathan Daval. François, vous êtes en ligne avec nous.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans l'heure du crime. Alors, je sais que vous êtes un auditeur, je pense, fidèle.
Oui, c'est ça. Oui.
Vous êtes à Caen, hein, c'est ça, en
oui,
Normandie.
C'est ça.
Voilà.
Oui,
alors, Jonathan Daval, dites-nous, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire? À cause du dernier procès qui a eu lieu, là?
Oui, puis la chose sournoise, c'est ce monsieur, il était un petit peu sournois, il faisait jurer le faux pour avoir duré, il faisait plein de choses que ça déstabilisait énormément les enquêtes. Mais je suis un peu étonné, moi, vous voyez, comme on parle un petit peu de l'affaire Émile Louis tout à l'heure, là. Il a tué quand même, pas en 8 jours qu'il a tué ces personnes-là, il en a tué 7.
Et puis
ça s'est déroulé, je comprends pas comment que la justice n'a pas pu arrêter ce monsieur avant,
mais...
il était à un bus,
oui.
Il est au contact tout le temps de ces gens-là. Comme vous prenez les prisons en France, eh bien, vous avez des centaines de personnes en prison qui sont non coupables. Donc, les enquêteurs, je ne vais rien dire, mais il faudrait peut-être les remettre en question, parce qu'ils n'y auraient pas l'ADN, vous ne trouveriez pas grand-chose.
Hein. Exactement. Alors,
c'est un gros handicap. Regardez également l'affaire Lelandais, là. L'affaire Lelandais, les femmes veulent faire l'amour avec ce gars-là, mais vous vous rendez compte la société?
Alors, attendez, je comprends tout à fait, François. Alors, il y a pas vraiment de question dans ce que vous me dites, mais effectivement, il y a des réflexions sur ce qui... Vous avez raison de revenir d'ailleurs sur Émile Louis, parce qu'on l'a jamais assez dit, mais la justice, elle a été vraiment défaillante. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est pas qu'on a mal cherché Émile Louis, on ne l'a pas cherché. Et ça, c'est une faute hein, qui est aujourd'hui reconnue, même si la justice n'a pas vraiment admis... ses erreurs dans cette histoire. Voilà, ensuite, pour Nordal Lelandais, vous parlez des femmes qui l'appellent, etc., qui veulent le voir. Vous savez, François, je vais vous dire, c'est un très grand classique en matière criminelle. C'est-à-dire que c'est presque inexplicable, mais c'est à la fois psychiatrique et sociologique. Les tueurs de série, ils aimantent finalement l'attention. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui reçoivent énormément de courriers, qui sont très sollicités par des jeunes femmes en permanence comme ça. Il y a une espèce d'attraction morbide qui existe, mais c'est un peu vieux comme le monde, hein. Vous savez, Landru, quand il était jugé. Landru qui avait mis dans sa cuisinière autant de femmes, eh bien les femmes étaient là, se pâmaient devant lui.
Parce qu'il regardait l'affaire Lelandais, là, ce monsieur, s'il fait l'amour avec des femmes, mais qui tombe enceinte et qui font des enfants, ça sera sans doute des tueurs également.
Il ne faut pas dire ça. Non, mais ça.
Il y a un jeune, on ne fait pas des chats avec des chiens.
Non, mais on ne sait pas. Non, il faut laisser sa chance, il faut laisser parler la chance et voir ce qui va se passer. Mais on ne peut pas quand même généraliser de cette façon. Merci beaucoup de votre appel et puis on se retrouve tout de suite dans l'heure du crime avec vous, les auditeurs.
L'heure du crime, émission spéciale.
La sélection des auditeurs.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, c'est vous, amis auditeurs, qui faites cette émission. Vous nous appelez au 3210 et puis on discute de faits divers, on discute des affaires qui vous passionnent, on prend vos témoignages, on essaie de répondre à vos questions et je suis toujours très heureux d'être à la rencontre des auditeurs parce que vous êtes nombreux et vous êtes fidèles et ça nous rend plein de fierté d'être avec vous aujourd'hui. On va retrouver, tout de suite, c'est Vincent, je crois que j'ai au téléphone. Bonjour Vincent.
Bonjour Jean-François, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Merci, très bien.
Vous avez l'air en pleine forme, Vincent. Ouais. Donc écoutez, vous avez envie de savoir des choses ou peut-être de vous exprimer sur le dossier Lina Del Sarte.
Oui, on n'entend plus parler de l'affaire Lina. Vous s'en était l'enquête ?
Alors, où s'en est l'enquête ? Si je pouvais vous le dire avec précision, je serais très heureux. Il y a des vérifications qui sont évidemment toujours en cours, notamment des vérifications à propos de l'ADN, de la téléphonie, d'accord, des emplois du temps des uns et des autres. Vous avez noté, puisque vous suivez cette affaire, qu'il y avait eu récemment des gardes à vue, les premières dans cette affaire. Il y a eu 3 gardes à vue. On avait beaucoup misé sur ces gardes à vue, puis finalement, ça n'a rien donné. Mais c'est un petit peu le jeu de l'enquête. Mais Vincent, il faut savoir que dès lors qu'il y a des gardes à vue, ça veut dire que les choses quand même s'accélèrent et prospèrent. Alors évidemment, l'enquête, elle est loin d'être terminée. Il y a des ratissages qui continuent, il y a des vérifications qui continuent, notamment des vérifications d'emploi du temps. C'est un travail de fourmi parce que deux solutions. Soit ça s'est passé localement avec quelqu'un qui embarque cette adolescente et qui la prend avec lui, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être la connaît, l'a abordée au bord de la route, ou bien alors c'est un étranger, c'est quelqu'un de passage.
Moi je pense qu'à l'heure où on parle, moi, je pense que le lien, elle est très, très loin.
C'est tout à fait possible. Mais vous savez, il faut pas avoir des idées. En matière criminelle, j'ai appris ça, moi, depuis que je suis ce genre d'affaires. Il ne faut pas avoir d'idées trop préconçues ou arrêtées. C'est-à-dire qu'on pense parfois que les gens sont très loin alors qu'ils sont vraiment pas loin du tout. Je vous renvoie au petit Émile aussi. On a beaucoup dit qu'il était très loin et que finalement il était tout près. Donc il y a des cas comme ça où il faut pas se précipiter. Mais enfin, je ne peux que vous rassurer. Mais effectivement, l'enquête, l'enquête elle continue. Les gendarmes ils sont toujours très discrets, vous savez, dans ce genre d'investigation. Je vous remercie, Vincent.
Merci, à bientôt, Jean-François Richard. À très bientôt.
Merci dire, voilà, restez avec nous, restez à l'écoute, évidemment, de l'heure du crime. J'ai une auditrice en ligne, c'est Geneviève. Bonjour Geneviève.
Bonjour monsieur, bonjour Jean-Alphonse.
Alors écoutez Geneviève, je suis très ému et très fier. Et très fier de vous avoir aujourd'hui dans l'heure du crime parce que vous êtes la maman de Sabine Dumont.
Oui, tout à fait, je suis la maman de Sabine. Ce que votre auditeur précédent a dit, ça m'a beaucoup touchée. Ce qui prouve que Sabine, après presque 37 ans au mois de juin, n'est pas oubliée et continuera à être présente dans le cœur de certains auditeurs qui connaissent bien notre drame. Mmh. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Oui, mais je suis très content de vous avoir, parce que vous savez, dans l'heure du crime, on accorde une grande place aux familles des victimes. On les écoute.
Oui, c'est vrai. Ce que je tenais aussi à dire, c'est que depuis presque 37 ans, vous m'avez toujours donné la parole.
Toujours.
Pendant toutes ces années, toujours. J'ai toujours eu droit à la parole. Je me suis toujours exprimée très librement. Le temps passe, nous avons passé la main à nos enfants qui ont repris ce lourd héritage, ce lourd fardeau, parce que avant c'était Maître Nathalie qui s'occupait de nous, Maître
Nathalie
qui est partie en retraite, c'est Maître Seban qui s'occupe de notre dossier avec Madame Kéris, et nous avons beaucoup beaucoup d'espoir dans cette équipe de Madame Kéris, de ses associés, de toute cette équipe qui est très 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 humaine.
Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, le Paul Cold Case est saisi, c'est Madame Kéris, c'est la juge Kéris.
Madame Kéris, c'est la juge Kéris.
Voilà, c'est la juge Kéris. Est-ce que vous croyez à la piste d'un tueur en série
pour... Non, pas du tout.
Ah bon?
Non, pas du tout. Mais bon, ça aussi, c'est notre impression depuis le début. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que c'est quelqu'un du coin, c'est quelqu'un... peut-être pas qu'elle connaissait, mais qui connaissait parfaitement les lieux. Mmh. C'est quelqu'un qui faisait partie des recherches. Parce que où elle a été retrouvée, c'était tellement simple, parce que on pense qu'elle est restée dans le coffre d'une voiture toute la nuit et que l'individu en question a voulu s'en débarrasser, mais il avait qu'à partir loin. La 118, tout droit.
Ouais.
Tandis qu'à l'endroit, à cette heure-là, alors que nos enfants avaient déjà cherché cet endroit-là, elle a été déposée là, elle était sèche, ses vêtements étaient secs. Et ça pose question.
Bien sûr. Mais ce qui est troublant, c'est qu'il y a d'autres petites filles qui ont été...
on a bien connu les autres
Virginie, familles. Perrine, Emma, Sabine.
Oui, mais il y en a qu'on a retrouvées longtemps après. Et puis, on a pensé avec Emma. Maintenant, je crois aussi que le dossier de Emma est aussi auprès de Mme Kéris. Mais pourquoi pas? Après tout, nous, on est prêts à entendre tout.
Bien sûr.
Il y a eu pas mal de pistes, mais il n'y a rien eu de conclu. Ça n'a jamais été conclu, ça.
Tout à fait. Il n'y a pas de conclusion, hélas. Ah, mais ce que vous dites, il y a quand même une... C'est extraordinaire ce que vous racontez. Vous dites que vos enfants, ils ont pris le relais dans cette recherche de...
On leur a laissé ce lourd héritage, parce que je vais avoir 80 ans, mon mari en a 85, il est très malade.
Ouais.
Et c'est la suite. Et ils ont accepté avec beaucoup, beaucoup d'empathie. En fait, c'est leur histoire. C'est l'histoire de notre famille. Et
bien sûr.
Il ne faut pas oublier non plus aussi ce que je tenais à dire, c'est les dégâts collatéraux. Parce que notre famille a été impactée, mais c'est que tout Bièvre a été impacté. Mmh. La preuve, c'est que ce monsieur, là, précédemment, il parle d'un ami qui a été à l'école avec sa
mère,
vous vous rendez compte, au bout de presque 37 ans.
Mmh.
C'est quand même un signe. Et à Bièvre, nous, on n'habite plus Bièvre, mais ça n'a pas... Rien n'a été oublié. Tout est toujours présent.
Mmh. Encore une question, Geneviève. Vous pensez, je suppose, toujours avec votre fille, même si vous dites on a passé le relais, elle est toujours là dans cette famille.
Elle est toujours là. Mmh. C'est-à-dire que nos enfants ont eu des enfants. Maintenant, les petits-enfants sont parents à leur tour. Mais ça suit, cette histoire. Ce sont des enfants, nos petits-enfants. Il n'y en a que un. Qui a connu Sabine.
Bien sûr.
Il avait 2 ans.
Bien sûr.
Je ne dis pas nous a quittés, parce que le mot quitter, ça veut dire qu'on peut revenir.
Ouais.
Moi, je dis Sabine est décédée. Elle est au cimetière à Bièvre.
Elle est au cimetière à Bièvre et vous pensez très fort à elle. Merci infiniment, Geneviève. Vous êtes la maman de Sabine Dumont et vous êtes la bienvenue dans l'heure du crime. Rappelez-nous quand vous voulez et on est avec vous pour essayer de trouver cette vérité qui n'est pas encore apparue. On se retrouve dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, émission spéciale.
Les affaires qui vous ont le plus marqué.
Jean-Alphonse Richard.
émission spéciale, parce que c'est vous les auditeurs qui faites cette émission, elle est à vous d'ailleurs cette émission, l'heure du crime. On parle de crime, on parle de faits divers, on parle d'affaires judiciaires, on parle de cold case, on parle de ratage judiciaire aussi avec vous les auditeurs. Et tout de suite, eh ben, on va prendre Jean tout de suite dans l'heure du crime. Bonjour Jean.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être avec nous dans l'heure du crime. Alors, vous vous intéressez à une affaire qui n'est pas très connue, mais qui est très intrigante, c'est le dossier Xavier Balligan. Je le résume en deux, trois lignes. Xavier Balligan, il a été retrouvé mort dans sa voiture sur une aire d'autoroute, c'était près de Nancy, c'est l'autoroute A31, il avait 29 ans, il a été tué à coups de fusil, ses deux enfants dormaient dans la voiture, il rentrait en Belgique après deux semaines en Ardèche. Et on va faire le lien avec une la tuerie de Chevaline. Pourquoi on fait ce lien? C'est à cause de l'arme. L'arme utilisée, c'est un fusil de l'armée suisse. L'arme à Chevaline, c'est un pistolet Luger qui est également de collection, qui est utilisé dans l'armée suisse. C'est pour ça que vous vous intéressez à cette histoire, Jean?
Alors, exact. Je me permets de préciser, il n'a pas été retrouvé mort dans la voiture, Jean-Alphonse. Il
oui,
a été retrouvé
exact.
Mort devant les toilettes.
En exact, fait. Vous avez raison. Il sort, il fait quelques pas et il est abattu voilà. Devant les toilettes.
Allez. Ce qui est quand même mieux pour les enfants qui étaient dans l'auto.
Tout à fait, merci de rectifier.
Non, mais je vous en prie. Comment dirais-je? Oui, je me permets juste une petite digression avant de commencer, en donnant mes respects à la maman de Sabine Dumont, et en disant qu'il y a une piste qu'on oublie trop vite. C'est celle du routier belge qui avait avoué en Belgique et dont le camion passait pas loin d'où on a retrouvé le corps. Il s'appelait Decker et malheureusement, quand les gendarmes ont voulu aller l'interroger, il était mort dans l'incendie de sa prison. Je le dis juste en passant.
Oui, c'est effectivement une piste qui a été creusée. Alors dans cette histoire, il y a la piste des collectionneurs en Suisse qui a beaucoup été creusée aussi. Mais c'est un vrai point d'interrogation parce que Xavier Balligan, on ne trouve rien dans sa vie qui puisse...
Je vous ai trouvé quelque chose, Jean. En réfléchissant et en regardant, il y a une chose qui m'a marqué. Il a été tué à 2h20 du matin, comme s'il allait à un rendez-vous devant les toilettes des femmes là-bas. Et en réalité, on a du mal à imaginer même un tueur en série qui avec une arme qui fait 1m20 de long.
Oui, c'est une arme longue, oui, tout à fait.
Très longue. Attendre à 2h20 du matin qu'un homme s'arrête alors qu'il n'y a plus grande voiture qui s'arrête. Et on dit qu'il y a un SMS qui est arrivé dans la voiture. On n'a jamais été capable de lire le téléphone mobile. Et donc, si vraiment il est venu sur une forme de rendez-vous, il y a très peu de gens qui savaient que Xavier Balligan allait remonter. C'était ni plus ni moins que soit sa famille, on ne voit pas du tout sa famille faire ça, soit son ex-femme, Mia Ella Jacobeus, qui voulait récupérer la garde des gosses, qu'aurait pu monter cette opération, puisqu'elle savait que son mari remontait, elle avait les horaires, contrairement à ce qu'elle dit, elle les avait.
Ça, c'est votre sentiment, il faut faire attention aussi avec les intimes convictions et les sentiments.
Vous avez raison, parce qu'effectivement,
il n'y a pas de poursuites qui ont été engagées, ne serait-ce contre l'ex-épouse ou contre qui que ce soit. Donc, c'est effectivement un peu compliqué, mais ça reste une histoire sur laquelle, d'ailleurs, les enquêteurs continuent à travailler aujourd'hui, parce qu'il y a une veille qui est activée sur ce dossier. Parce que,
ça a été recalé à Nanterre, en fait.
Oui, tout à fait. Et donc, si, on a toujours espoir d'avoir un témoignage, comme on dit toujours, ou bien un indice qui puisse amener à la solution. Merci beaucoup, Jean, de votre appel.
Attendez, j'ai une requête, monsieur Richard.
Allez-y, une requête.
Voilà. Vous avez un jour fait une émission sur l'affaire Ranucci il n'y a pas très longtemps, un ou deux ans.
Oui.
Vous avez été honnête, vous avez laissé la parole à la dame qui disait qu'il était coupable. Or, moi, je suis convaincu pour avoir travaillé sur toutes les assertions de Perrault, pour tout le travail, que Ranucci était bel et bien innocent. Et est-ce que vous permettriez une enquête, non plus cette fois-ci dans le sens de cette dame qui disait qu'il était coupable, pour laisser la chance aux partisans de l'innocence de donner leurs arguments.
Alors, je vous réponds très franchement, mais avec plaisir, on refera sans doute l'émission de Ranucci, mais il n'y a aucun parti pris dans l'heure du crime. On n'est pas là pour prendre parti.
L'écrivain que vous aviez invité, c'est pas
ah
vous.
Ah oui, non, mais je vous réponds, vous savez, ce genre d'histoire, c'est toujours compliqué, il y a un peu de noir et de blanc. Souvent, nous, on reste toujours dans le gris.
Vous êtes droit et honnête. Je connais comment vous prenez les partisans d'un bord ou de l'autre. Mais très honnêtement, j'ai un dossier, j'ai beaucoup travaillé, je le connais vraiment très bien. Et je me permets de vous dire que la conclusion, c'est impensable et impossible qu'il soit coupable, sauf à tordre.
D'accord.
À tordre tous les éléments d'innocence.
Ben, je vous promets qu'on refera une émission. Il y a pas de souci. Merci beaucoup de nous avoir appelés dans l'heure du crime et on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, émission spéciale.
La sélection des auditeurs.
Émission spéciale auditeur, parce que c'est vous aujourd'hui qui faites cette émission. Vous nous appelez, on parle de crime, on parle d'affaires judiciaires. Je réponds à vos questions, ou du moins j'essaie d'y répondre. Et on discute de tout ça entre nous. On a Nicolas en ligne. Bonjour Nicolas.
Bonjour, Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Alors vous, on fait un saut dans le passé, hein, on revient en 1947, oui. C'est très loin, c'est l'après-guerre avec l'affaire Marie Bénard, ça c'est un classique oui. criminel. Pourquoi vous vous intéressez, vous, comme ça, à cette affaire ?
Eh ben, c'est une affaire qui m'a marqué plusieurs fois dans ma vie. Déjà, quand le film est sorti avec Alice Sapritch, oui. J'avais 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et de voir Alice Sapritch, qui était une comédienne, rigolote, etc., jouer un tel rôle, ça m'a fait déjà bizarre quand j'étais petit. Je me suis réintéressé plus tard à l'affaire, et quand j'en ai appris plus, j'ai vu qu'il bon, y a eu un gros cafouillage par rapport à la procédure, par rapport à la bataille d'experts qu'il y a eu, et qui a fait traîner cette affaire pendant des années. Et suite à ça, le code de procédure a changé. Et bon, donc pour éviter toutes ces batailles d'experts. Et maintenant, quand j'entends encore les actualités, j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de batailles d'experts, surtout en psychiatrie. Et je me demande si ça ne mériterait pas encore une réforme de tout ça.
Ah oui.
Parce que je pense que toutes ces batailles d'experts, ça ne fait que rajouter du mystère au mystère.
Alors ça, c'est une bonne question que vous posez sur les experts, parce que c'est toujours un rôle très difficile pour eux, c'est très controversé. Il y a des gens qui disent il faut un maximum d'experts. On a vu que la justice, à un moment donné, basculait du côté des experts et qu'ils détenaient presque la vérité. L'ADN n'a fait que renforcer, hein, effectivement, ce phénomène. Pour la psychiatrie, c'est pareil. Alors moi, je les défends un peu, les psychiatres, parce que c'est très compliqué pour eux, effectivement, d'avoir parfois une idée claire de ce qui a pu se passer dans la tête des uns et des autres. Mais effectivement, ça permet parfois aussi d'éviter des erreurs. Il faut bien le reconnaître. Je pense qu'il faut je suis d'accord avec vous, il faut pas donner une place, la place numéro un aux experts. Il y a des juges, il y a des avocats, voilà, donc tout le monde doit s'exprimer.
Oui, mais je pense que c'est dans la façon de faire. C'est-à-dire que là, si je comprends bien, c'est l'accusé qui nomme demande une expertise, l'accusateur qui demande une autre contre-expertise. Est-ce que ça serait pas mieux qu'il y ait un collège d'experts indépendants qui se penche sur une affaire, qui soit tranche ou soit dise on ne peut pas trancher, complètement indépendant.
C'est une bonne question, je suis assez d'accord avec vous. Après, c'est une question de moyens aussi, hein. faut pas non plus rêver. Là, pour Marie Bénard, les expertises, c'est vrai qu'elles ont duré très longtemps, elles ont duré 6 ans, et puis tous les experts se sont contredits dans cette affaire. Hein.
Oui.
Il y a eu un expert en arsenic, on a démontré que c'était peut-être pas tout à fait ça, la manière dont ça se passait avec ce genre de poison. Voilà, donc là, effectivement, le procès, d'un seul coup, il est ruiné, en quelque sorte. Hein. On a perdu les bonnes bases pour arriver à trouver la vérité. Là, c'est dommageable, mais sur l'histoire du collège d'experts indépendants, oui, pourquoi pas, mais vous savez, les experts, ils sont de toute façon indépendants. Hein. Ils sont accrédités, comme on dit, auprès du ministère public, hein, du ministère de la Justice.
Oui, mais on leur demande quand même de bosser dans un sens. Et alors, pour sortir de la justice, quand on voit dans les batailles d'experts qu'il y a même au niveau du Covid, alors on s'en éloigne, mais on voit bien que même des chercheurs éminents
bien
qui
sûr.
Sont reconnus et tout ça, qui partent dans des dérives incroyables.
Mais bien sûr, et ça c'est effectivement un problème. Merci beaucoup Nicolas d'être intervenu sur l'antenne.
Je vous en prie.
Et puis restez avec nous évidemment dans l'heure du crime, soyez fidèles à l'heure du crime. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, écoutez, Alain, vous êtes à Saint-Nazaire, donc voilà,
oui.
Côte atlantique.
Oui.
Xavier Dupont de Ligonnès, ça on est presque chez vous. C'est à Nantes que tout s'est passé et tout s'est déroulé.
Ouais.
C'est peut-être pour ça que ça attire un peu plus votre attention.
C'est quand même un gros mystère, hein, parce que je ne sais plus combien d'années ça fait, mais c'est quand même un gros mystère, passer au travers de tout ça. Alors, moi je pense que ce monsieur, j'ai toujours pensé que c'était un caméléon. Il changeait de visage, il changeait de...
Vous avez raison, vous avez raison.
Il changeait la barbe, il était chauve et tout. Donc il s'est peut-être... Moi, je sais pas, je vois ça avec mes lunettes en bois, je veux dire. C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de faire des essais comme ça. C'était un monsieur qui était imbu de sa personne, je pense. C'est quelqu'un qui a tout loupé. Son entreprise a été loupée. Je pensais qu'il allait peut-être il avait une maîtresse. Je pense qu'il était mal dans sa peau, il vivait mal et il donnait une image de lui qui n'était pas.
Non, bien sûr, mais il a ce miroir que lui renvoie un petit peu la vie et son existence ratée. Ça, vous avez raison de le souligner, parce qu'effectivement, je pense que ça l'a enfermé dans une espèce de névrose. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. De là à tuer toute une famille, c'est vrai que là, on franchit un pas qui est extraordinaire. Mais après, cette histoire, elle est effectivement extraordinaire par le déroulement des faits, par la mise en scène. Hein, on est d'accord.
Ah oui, complètement.
Et puis ensuite, évidemment, la disparition. Alors là, la disparition, on peut quand même se poser beaucoup de questions. Vivant ou mort, c'est toujours la question, et je suppose que vous la posez de la même manière.
Alors pour moi, ce garçon n'est pas mort. C'est que mon avis. J'en parle des fois comme ça avec des clients. Je pense que c'est quelqu'un qui est tellement, comme je vous dis, imbu, prétentieux, orgueilleux. Ce qu'il a fait, c'est quand même, il s'est jamais fait avoir, quoi. Il s'est jamais fait avoir et puis je pense qu'il a bien calculé son coup. Quand on le voit qu'il va manger au restaurant, quand on le voit la dernière fois qu'on le voit en train de tirer de l'argent sur une carte bancaire, et plus rien. C'est pas quelqu'un qui a envie de se suicider, c'est pas quelqu'un qui va mourir, ça.
Oui,
et
puis on voit cette dernière image, vous la connaissez comme moi, lorsqu'il est à cet hôtel, qu'il traverse ce parking avec ce sac, on pense que c'est peut-être un fusil, d'ailleurs une carabine, qui est dans ce sac, et il fait presque un au revoir à la caméra de vidéosurveillance, parce qu'il sait qu'il est filmé. Donc là, c'est à la fois glaçant et extraordinaire, j'ai envie de dire. Hein, donc,
je vous dis, ce garçon est tellement... je pense qu'il a un ego mais surdimensionné. De toute façon, sa femme était un petit peu, de l'histoire que j'ai vue, que je connais, moi je vois que par les intermédiaires des actualités et compagnie des journalistes, sa femme était quand même un petit peu soumise parce que elle a quand même écrit certaines choses sur, elle a quand même envoyé des lettres, elle était pas bien dans sa vie, faut reconnaître.
Mais on a vu ça et effectivement on a découvert après les enquêteurs ont découvert ces courriers effectivement ou de ce couple qui était en train d'exploser. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, émission spéciale.
La sélection des auditeurs.
Émission spéciale, parce que c'est vous, les auditeurs, qui faites cette émission. Elle est à vous, d'ailleurs, cette émission. L'heure du crime, on parle de crime, on parle de faits divers, on parle d'affaires judiciaires, on parle de cold case, on parle de ratage judiciaire aussi, avec vous, les auditeurs. Et tout de suite, on a Fred en ligne. Bonjour, Fred.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Merci infiniment d'être avec nous dans l'heure du crime aujourd'hui.
C'est moi qui suis enchanté d'être en votre compagnie.
Ah bah non, mais des auditeurs comme nous, comme vous, effectivement, il faut les garder et c'est exceptionnel. On est ravis de vous avoir, Fred. Vous voulez parler de l'affaire Patrice Allègre. Patrice Allègre, je le dis en une seule ligne, arrêté pour 5 meurtres, une tentative de meurtre et 6 viols, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire? Parce que allez-y.
Dans cette histoire, ce qui m'a fait réagir, moi, à l'époque, c'est que, écoutez, j'étais dans le monde de la nuit, j'étais barman aussi, et j'ai rencontré ce soir-là Patrice Allègre dans la folie où il était prêt à se faire arrêter, là, et donc j'ai eu une altercation avec lui, et bon, ça s'est goupillé assez rapidement, puisque je connaissais bien sa famille, donc son frère aussi. Et Patrice, bon, je le trouvais très bizarre, très énervé, et insultant à mon égard. Et bon, après, j'étais assez connu dans le monde de la nuit pour les arts martiaux, etc. Donc, on a eu une altercation ensemble et je suis resté choqué sur tout ce qu'il a pu faire
et
qu'il a pu engranger.
Bien sûr. Juste en un mot, Fred, c'était un mauvais garçon, Patrice Allègre, ça on le sait. Est-ce que lorsque vous le connaissiez, vous étiez dans le monde de la nuit, est-ce que vous auriez imaginé le parcours criminel de ce garçon?
Jamais. Jamais. Au grand jamais, puisque nous étions un monde des nuits toulousaines. Toulouse était, et pour moi, c'était une petite ville, c'était un village, en fait, hein, et on se connaissait tous plus ou moins dans le monde de la nuit, etc. Et j'ai trouvé, qui était très très bon ami avec son frère, auquel, moi, j'ai même pas prêté aucune aucune attention à son frère. Il était à droite, il était à gauche, on ne savait pas ce qu'il faisait vraiment. C'était une catastrophique quand on arrive
bien sûr.
À la fin de cette affaire et qu'on découvre tout.
Bien sûr,
mais criminel.
Mais enfin... oui, tout à fait. Mais c'est toujours frappant, effectivement, ce que vous dites, Fred, parce que il y a le visage que montrent certaines personnes, et puis ensuite on découvre des choses abominables et exceptionnelles sur ces personnes. Donc ça, c'est vraiment frappant. Merci beaucoup, Fred, d'avoir appelé l'heure du crime et restez évidemment avec nous à l'écoute de notre émission. On va prendre un auditeur. C'est Abdel. Bonjour, Abdel.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime, vous aussi, Abdel.
Alors, merci, Jean-Alphonse, parce que vos émissions donnent toujours envie de les écouter au fur et à mesure, tellement que c'est passionnant et qu'on a envie d'en savoir plus sur ces différents faits divers que vous traitez. Donc,
C'est très gentil, on essaie d'être sérieux et d'être rigoureux et puis de donner beaucoup la parole aux victimes dans cette affaire et dans l'affaire dont vous voulez parler. Il y a une victime, et il y en a une seule, c'est Lola, la petite Lola, 12 ans, retrouvée morte dans une malle en plastique dans la résidence où elle habitait, à Paris. Ses parents vont être effondrés, c'est une histoire abominable, absolument. Et je vous le dis, Abdel, l'affaire Lola, on va la traiter lundi dans l'heure du crime, c'est au programme de lundi, donc vous écouterez cette affaire qui vous passionne, parce que vous verrez, on a des témoignages qui sont importants et intéressants, donc vous serez à l'écoute. Abdel, alors dites-moi un mot là-dessus, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire?
En fait, c'est parce que j'étais consterné par la façon et le déroulement de cette histoire. C'est que nous, on habite un petit village Écopont, pas loin de Valenciennes, dans le Nord. Et je suis président d'association de parents d'élèves. Donc, tout ce qui touche aux enfants, je le suis de près. Et l'histoire de Lola, elle m'a complètement effaré parce que c'est arrivé au pied de son immeuble avec une personne qui vivait, on va dire, entre guillemets, chez eux, même si c'était pas dans... Et de la façon qu'elle s'est retrouvée dans une valise alors que sa maman avait lancé une alerte et son père, malheureusement, paix à son âme, n'a pas tenu le coup. Et ça marque, ça fait mal. On peut pas savoir avec quelle violence et quelle haine certaines personnes peuvent réagir. Quoi. Donc,
vous pointez du doigt vraiment le cœur de cette affaire parce qu'effectivement, il faut le rappeler, le papa de Lola, vous venez de le dire, il est mort le 23 février dernier. Mais il n'est pas mort comme ça, il n'est pas mort tout seul d'un accident ou quoi que ce soit. Il est mort de chagrin, le papa de Lola. Donc ça, c'est quand même totalement effrayant. Il est mort, il a tout perdu dans cette histoire.
Hein. Comment on peut tenir le coup en ayant perdu sa fille, mais dans des conditions abominables. On peut pas rester dormir le soir sans forcément y penser. Et le pauvre, je ne sais pas s'il était vraiment entouré ou s'il avait des besoins particuliers pour essayer de survivre avec ça. Mais
j'ai mal au cœur pour lui. Quoi. Ben vous savez, la famille de Lola, moi je trahis aucun secret puisque ça a été dit, mais la famille de Lola, elle a explosé à cause de cette histoire.
Et
vous savez, dans ce genre de drame, souvent les familles, elles sont disloquées, c'est-à-dire qu'on ne survit pas à ce genre d'épouvante. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors il y a quand même un point positif dans cette affaire, Abdel, que vous connaissez bien et vous avez raison d'en parler aujourd'hui. C'est très bien ce que vous nous dites. Il y a un point positif, c'est que la justice va passer, on l'espère. La personne d'Abia Benkired a été arrêtée. Elle aura sans doute à rendre des comptes. Alors,
je l'espère, parce qu'en plus, elle était sous OQTF. Oui. C'était une personne qui avait des troubles apparemment psychiatriques. Donc il faut que ça aille jusqu'au bout, cette histoire.
Tout à fait. On s'interroge effectivement sur son état mental, mais on espère qu'il y aura un procès aux assises. Un grand merci, Abdel, et restez fidèles à l'heure du crime. Merci, Abdel, et merci à vous tous, les auditeurs. Qui avait appelé aujourd'hui dans l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Enzo qui était au standard et Jonathan Griveaux à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.